La semaine dernière, nous avons vu que si jamais en tant qu'Église, nous voulons accomplir la mission que Dieu nous a confiée, c'est-à-dire la mission de faire des disciples, il nous faudra parler à ceux que le Seigneur enverra parmi nous. Et il nous faudra parler de la foi en Jésus, mais aussi de leur parler de la conséquence qu'a la foi en Jésus dans les vies, dans leur vie. Nous devons mettre en lumière que croire en Jésus a des répercussions dans les vies. Eh bien, ce matin, nous allons nous continuer à nous intéresser à la manière dont Dieu voudrait nous utiliser pour faire des disciples. Mais ce matin, la perspective est différente, parce que là, il ne s'agit pas de dire à des non-croyants de quelle manière ils devraient vivre pour être des disciples de Jésus. Mais il s'agit maintenant pour nous, nous disciples de Jésus, de vivre au milieu des non-croyants. Parce que à partir de notre propre vie de disciples, Dieu peut toucher les cœurs de ceux qui ne le connaissent pas encore. D'où le titre de ma prédication de ce matin, que notre manière de vivre permette à Dieu de toucher les cœurs et de se glorifier auprès de ceux qui nous entourent. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la première lettre de Pierre, presque à la fin de vos Bibles, 1 Pierre au chapitre 2. Alors, l'apôtre Pierre écrit à des chrétiens qui passent par des moments difficiles parce que les gens au milieu desquels ils vivent ne croient pas en Jésus et en plus, ils persécutent les chrétiens. Et malgré cela, voilà ce que Dieu dit au travers de Pierre. 1 Pierre 2, verset 12. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Tous, nous avons tendance à adopter la même attitude que ceux qui nous entourent. Alors, lorsque les gens sont aimables, lorsqu'ils sont détendus, nous avons tendance à l'être nous aussi, et tant mieux, là, on peut s'en réjouir. Mais lorsqu'ils sont stressés, lorsqu'ils se montrent indifférents, voire même agressifs vis-à-vis de nous, lorsqu'ils ne sont pas justes et droits, nous avons, et ce coup-ci malheureusement, tendance à l'être nous aussi. Il est naturel de se comporter ainsi, hein, mais tout comportement naturel n'est pas forcément bon. Seul un comportement spirituel, c'est-à-dire un comportement qui est le fruit de l'Esprit de Dieu, est vraiment bon. Et notre manière de nous comporter ne doit pas dépendre des autres, mais de Dieu. C'est mon premier point. Notre manière de vivre doit dépendre de Dieu et non du milieu dans lequel nous vivons. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, écrit Pierre. Il écrit cela parce que nous pouvons être chrétiens et pourtant avoir une mauvaise conduite, c'est-à-dire une manière de nous comporter, une manière de vivre qui n'est pas bonne aux yeux de Dieu, qui n'est pas conforme à sa volonté, qui n'est pas le fruit de son esprit. Alors bien sûr, il y a des moments où nous nous comportons bien. Par exemple, lorsque je suis au milieu d'autres chrétiens, le dimanche à l'église, en principe, là on se comporte bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est formidable. À l'église, je me comporte comme un chrétien, et je me conduis bien. Mais lorsque je me trouve au milieu des non-chrétiens, comment est-ce que je me comporte? Et ici, ce dont il est question, ce n'est pas de parler de Dieu ou de prier en public, mais c'est de notre manière d'être. Comment est-ce que je me conduis au milieu des non-chrétiens? La parole de Dieu est claire et nous dit ceci, « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants. » Ce n'est pas seulement entre nous, dans une espèce de milieu protégé. Ce n'est pas seulement à l'Église que nous devons avoir une bonne conduite, mais c'est aussi au milieu de ceux qui ne croient pas en Dieu. Pourquoi ? Eh bien parce que nous, nous sommes chrétiens tout le temps, et pas seulement le dimanche, en tout cas, je l'espère. C'est pour cela que si jamais nous appartenons au Seigneur, notre comportement ne doit pas dépendre de ce qui est naturel, il ne doit pas dépendre de ce qui nous entoure, il ne doit pas dépendre des autres, mais il doit dépendre de ce qui est spirituel. Notre manière de vivre doit dépendre de Dieu et non du milieu dans lequel nous vivons. Notre manière de nous conduire ne doit pas ressembler à celle des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Mais par contre, nous devons chercher à ressembler à Jésus, même au milieu des non-croyants. Nous devons nous comporter selon ce qui est juste et bon aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que nous devons vivre conformément à sa parole et nous devons vivre selon ce qui correspond au fruit de l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Alors peut-être que mes collègues, alors moi c'est plus tellement le cas maintenant, hein, je m'en réjouis, mais peut-être que vos collègues passent leur temps à critiquer les autres, ou peut-être vous-même. Vous savez, il y a des gens comme ça qui sèment la zizanie, qui se montrent durs, et ils s'attendent naturellement à ce que l'on fasse comme eux. Et souvent, nous sommes tentés de le faire. Quand on nous montre les dents, enfin, je ne sais pas vous, hein, moi, quand on me montre les dents, j'ai tendance à vouloir mordre. Mais la parole de Dieu me dit, selon Tite 3.2, de ne calomnier personne. Même si je suis calomnié, la parole de Dieu ne me dit de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Peut-être que ceux que j'aime, enfin que je côtoie, racontent des histoires qui se passent au-dessous de la ceinture. Ils parlent de manière grossière et s'attendent, en général, quand ils font ça, ils s'attendent même à ce qu'on trouve ça drôle et qu'on fasse comme eux. Et des fois, c'est vrai qu'on trouve ça quelque part drôle et on a envie d'aller dans leur direction. Mais Éphésiens 5.4 nous dit ceci, « Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant. » Notre manière de nous comporter ne doit pas se calquer sur le milieu dans lequel nous sommes, mais par contre, notre manière de vivre doit refléter que nous appartenons à Jésus et que son Esprit vit en nous, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Alors bien sûr, ce n'est pas facile de ne pas nous laisser entraîner par les autres. Et cela demande souvent une grande vigilance de notre part. Et ce n'est pas non plus facile pour nous, parce que si jamais nous sommes différents des autres, eh bien, qu'est-ce qui va finir par se passer ? Les autres vont finir par le remarquer. C'est notre deuxième point. La manière dont nous vivons va être remarquée par ceux qui nous entourent. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir. Alors le monde a beaucoup changé, n'est-ce pas, en 2000 ans. Mais par contre, il y a quelque chose qui n'a pas évolué depuis l'époque où l'apôtre Pierre a écrit sa lettre. Quelle que soit l'époque, les disciples de Jésus ont toujours été victimes de préjugés et de calomnies de la part de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Simplement un exemple récent. Parce que l'amour de Dieu est dans nos cœurs, nous aimons et nous accueillons parmi nous tous ceux que le Seigneur nous envoie. Nous accueillons tout le monde sans faire de distinction de race, d'âge, de milieu social, d'handicap. Et ça pourquoi ? Parce que nous considérons que chaque être humain a la même valeur que nous, et pas n'importe quelle valeur. Une valeur inestimable, celle d'avoir été créé à l'image de Dieu. Eh bien, il y a quelque temps, je lisais sur le site internet d'une radio publique ceci. Ils accusaient les églises évangéliques d'être des sectes. Pourquoi ? Parce qu'elles cherchaient à endoctriner les plus faibles, les pauvres, les personnes isolées et les handicapés mentaux. Et en fait, si j'allais jusqu'au bout de la logique de ce journaliste, il aurait fallu que l'on ne s'intéresse pas du tout à ces personnes. Le fait que l'on s'intéresse à elles et que l'on leur accorde de l'importance était pour elles la preuve qu'on était une secte. Parce que nous ne faisons pas de distinction de personnes et que nous considérons qu'on tous ont besoin du Seigneur, on nous accuse de secte, on nous calomnie, on se moque de nous. Nous devons être conscients d'une chose, c'est que ceux qui ne connaissent pas Jésus sont, en raison de leur nature rebelle, hostiles à tout ce qui vient de Dieu. Et ils n'en sont pas forcément conscients, hein, mais leur manière de voir les choses est faussée à tel point qu'ils considèrent comme étant mal tout ce qui vient de Dieu. À partir du moment où ça vient de Dieu, c'est mal. Et c'est pour cela que si nous, nous faisons le bien selon les critères de Dieu, ils vont dans un premier temps nous calomnier comme si nous faisions le mal. Comme ce journaliste qui nous calomnie parce que nous accueillons parmi nous des exclus de la société. Mais en réalité, ce n'est pas contre nous qu'ils en ont, c'est contre le fait que notre personne, que ce que nous vivons, reflète la personne de Jésus. Et à partir du moment où notre vie va refléter notre union avec Jésus, cela va attirer une opposition contre nous. Ça, on doit en être conscient et y être préparé. De Timothée 3,12 dit ceci, « Tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ seront persécutés. » Pas en raison de ce que nous sommes, en raison de notre union avec Jésus. Lorsque l'opposition survient, lorsque les autres se mettent à nous calomnier, comme si ce que nous faisons était mal, nous pouvons être tentés alors de faire marche arrière et de nous couler dans le moule, hein, n'est-ce pas ? En adoptant la même manière d'agir qu'eux. On va se faire discret. Nous sommes parfois tentés de passer inaperçus, ou plus exactement, que notre appartenance à Jésus passe inaperçue. Ce serait bien souvent plus simple pour nous, et cela nous causerait moins de problèmes. Moins de problèmes au travail, moins de problèmes parfois avec notre famille, moins de problèmes avec nos copains. C'est vrai que nous aurions parfois moins de problèmes en adoptant le même comportement que les autres, mais pourtant, Dieu qui nous aime, nous demande de vivre en disciples de Jésus, même si cela suscite des réactions d'hostilité ou d'incompréhension chez les autres. Dieu veut que nous ayons une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que quoi ? Afin qu'ils remarquent notre belle manière d'agir. Parce que même si les gens semblent rejeter tout ce qui vient de Dieu, au fond d'eux-mêmes, et grâce à leur conscience, ils savent encore distinguer ce qui est juste et ce qui est bon. Et si notre comportement reflète la personne de Jésus, probablement que dans un premier temps, ils vont nous calomnier. Mais au bout d'un moment, ils vont remarquer que notre manière d'agir n'est pas si mauvaise que cela, et que même en réalité, elle est belle, elle est bonne. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais autrefois pompier, et dans mon travail, régulièrement, je prenais le standard, là où tous les appels passaient. Des appels d'urgence, mais aussi tous les appels destinés à la caserne. Et à cette époque, il y avait beaucoup moins de portables que maintenant. Il n'y avait pas non plus les communications par Internet. Donc, beaucoup, beaucoup d'appels transitaient par le standard. Et parfois, lorsque j'étais là, certains venaient et ils me demandaient de composer des numéros internationaux, parce que c'était une grosse caserne. Hein. Dans les bureaux, c'était impossible d'appeler en international. Par contre, au standard, on pouvait appeler n'importe où. Ils venaient, par exemple, me demander d'appeler un numéro avec un copain qui était aux Antilles ou je ne sais pas quoi. Et moi, je refusais de faire ça. Et plus souvent encore, ils me demandaient de mentir. En particulier, lorsque je prenais des appels, de dire que soit ils étaient absents, soit ils étaient en réunion, mais en tout cas, voilà, je devais dire à la personne, non, je ne peux pas vous les passer parce qu'il y a un empêchement. Et ça aussi, je refusais de le faire. Eh bien, cela a provoqué l'hostilité de la grande majorité de mes collègues, bien sûr, où j'étais un égoïste. Je voulais même pas rendre un service si simple que ça. Ça ne me coûtait rien à moi. J'étais un égoïste, j'étais un imbécile, pour rester poli, et j'étais pas leur ami. Mais au bout d'un moment, plusieurs années, je me suis rendu compte, en fait, que même ceux qui ne m'aimaient pas, et qui affichaient ça clairement, hein, je veux dire, même ceux qui ne m'aimaient pas venaient vers moi lorsqu'ils avaient besoin de savoir la vérité sur quelque chose. Parce que dans notre métier, des fois, il y avait des choses un peu délicates et on ne savait pas trop comment les choses s'étaient passées. Et il fallait, hein, en fait, le savoir. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils ne demandaient plus ça à leurs copains, ça va être leurs amis, n'empêche, ils n'avaient pas confiance en eux. Parce qu'ils savaient que leurs amis pouvaient mentir. Et lorsqu'ils voulaient être sûrs de quelque chose, ils venaient vers moi. En fait, j'étais le seul aussi dans la caserne où, si jamais je trouvais du matériel qui était défectueux, par exemple, on me prêtait une voiture, je pouvais dire, voilà, j'ai trouvé que telle chose ne marchait pas. Eh bien, n'empêche, moi, mes comptes rendus ont toujours été acceptés. On ne m'a jamais suspecté, en fait, d'avoir abîmé des choses et de faire la déclaration après. Au bout d'un moment, cette droiture est-elle quelque chose qui se remarquait et quelque chose qui était apprécié même par ceux qui, entre guillemets, étaient mes ennemis. Une fois, c'était toujours un nouveau standard, et puis notre caserne était également un centre de formation et on avait des pompiers extérieurs qui venaient se former chez nous. Et puis il y avait des pompiers qui ne me connaissaient pas. Et là, c'était le soir, j'étais au standard, et un d'eux vient me voir et me dit, écoute, c'était un plongeur qui était en formation, il dit, écoute, si ma femme appelle, tu peux lui dire que je suis en train de faire une nage de nuit. En fait, il voulait sortir avec ses copains, mais il ne voulait pas que sa femme le sache. Donc il me demandait, comme un service, si elle appelle, tu dis, ben voilà, non, il n'est pas joignable, il est en train de faire une manœuvre de nuit. Et puis il me demandait ça, vous savez, hein, comme font généralement les gens, voilà, c'est comme un ami, c'est un service qu'on me demande. Et puis là, je lui ai dit non, je ne peux pas faire ça. Je peux dire que tu es absent, mais je ne peux pas dire que tu es en manœuvre. Et puis là, il me pose la question, il était étonné. Il dit, pourquoi ? Et là, j'étais embêté, je ne savais pas quoi lui répondre. Je dis, bon, comment je peux lui expliquer que je ne veux pas dire ça. Et puis, dans le standard, il y avait un autre collègue de la caserne, celui-là. Et pendant que j'étais en train, moi, de me dire, mais qu'est-ce que je peux lui dire ? Lui, il répond comme ça, enfin, spontanément, sans réfléchir, il répond, ben non, il ne peut pas dire ça. Il est chrétien, il ne peut pas mentir. Alors que moi, de mon côté, je me demandais comment je pouvais expliquer ça à celui qui me demandait justement de lui rendre ce service, pour mon collègue, c'était une évidence. C'est parce que j'étais chrétien, parce que j'étais différent, que je ne pouvais pas mentir. Et là, ce jour-là, je me suis dit, mais oui, c'est aussi simple que ça. Ce qui était curieux, c'était que, de mon côté, je n'avais jamais présenté les choses de cette manière. Alors bien sûr, comme nous travaillons ensemble et qu'en plus nous habitions au même endroit, au bout d'un moment, tous mes collègues savaient que j'étais chrétien, même à ceux à qui je ne l'avais pas dit. Mais à l'exception de quelques amis peut-être, je ne disais pas « je fais ceci ou je fais cela parce que je suis chrétien. Je ne cherchais pas à justifier mon comportement, simplement je faisais ou je ne faisais pas les choses. Je me contentais de faire ce qui était juste et bon aux yeux de Dieu. Eh bien, Dieu a fait en sorte que mes collègues fassent eux-mêmes le lien entre mon comportement et lui. Et que mes collègues fassent le lien que c'était lui, que c'était Dieu qui orientait ma manière de vivre. Au début, moi, personnellement, il me calomniait comme si je faisais le mal. Mais avec le temps, ils ont fini par remarquer que ma manière d'agir était bonne. Et c'est à Dieu qu'ils attribuaient cela. Eh bien ça, c'est ce que Dieu peut faire dans la vie de tous ceux qui nous entourent. Si jamais notre vie reflète Christ, Dieu pourra utiliser cela pour interpeller et toucher les cœurs. C'est notre troisième point. Si notre manière de vivre reflète Christ, Dieu pourra toucher les cœurs et se glorifier auprès de ceux qui nous entourent. Nous faisons peut-être des efforts pour rester fidèles à Dieu au sein de notre travail, au milieu de nos amis et des gens que nous côtoyons, et nous avons peut-être l'impression que ça ne sert à rien, que cela ne porte pas de fruits, que les gens ne nous écoutent pas, qu'ils ne changent pas de comportement, et peut-être même qu'ils nous calomnient, qu'ils se moquent de nous, qu'ils nous rejettent. Mais même si aujourd'hui, nous ne voyons pas le fruit de cela, Dieu nous encourage à persévérer. À persévérer déjà parce que c'est nous, en premier lieu, qui en bénéficierons. Parce que notre attachement à Dieu dans les difficultés, notre foi, notre communion avec Dieu vont grandir et se renforcer. C'est Jésus que nous devons suivre et nous ne devons pas imiter les autres. Notre communion avec Dieu passe par notre fidélité à Dieu. Donc la première personne qui en bénéficie, c'est nous. Mais Dieu nous encourage également à persévérer parce qu'un jour, et grâce à ce que nous aurons semé par notre comportement, Dieu pourra intervenir dans le cœur de ceux qui nous entourent. Notre texte nous dit « D'abord, ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants. » Alors probablement qu'alors, ils vous calomnieront comme si vous faisiez le mal. Mais tôt ou tard, ils remarqueront votre belle manière d'agir. Et à partir de là, Dieu sera en mesure d'intervenir à partir du témoignage de votre vie. Et notre texte nous dit que le jour où Dieu interviendra, ils lui rendront gloire. Ici, ce qui est souligné, c'est que la manière dont une personne reçoit Jésus dans sa vie est quelque chose qui nous échappe. Cela dépend de Dieu et non pas de nous. Vous savez, nous, des fois, on aimerait bien qu'il y ait des trucs. Voilà. On fait telle chose, on dit telle chose. La personne entend, se convertit, alléluia. Mais ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Cela dépend de Dieu et non pas de nous. Et la preuve, notre texte nous dit, il faut que Dieu intervienne. Alors bien sûr, nous, ce que nous aimerions, c'est que Dieu intervienne maintenant, tout de suite. Mais cela aussi, c'est quelque chose qui nous échappe et qui ne dépend pas de nous. C'est Dieu qui choisira, le texte dit, le jour où il interviendra. Et il faut parfois du temps pour ce qui a été semé, germe, prenne racine et porte du fruit. Il faut parfois du temps pour que ceux qui rejetaient Dieu finissent par l'accepter dans leur cœur. Ça, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas et qui nous échappe. C'est quelque chose qui se passe entre Dieu et les personnes qui nous entourent. Mais Dieu peut intervenir dans les cœurs, même dans les cœurs les plus fermés. C'est ce qu'il a fait dans ma vie, et c'est ce qu'il a fait aussi dans la vie de tous ceux qui lui appartiennent. C'est parce que Dieu est intervenu dans notre vie que Jésus est devenu notre Seigneur et notre Sauveur. C'est ce que Dieu a fait pour nous, et c'est ce que Dieu va encore faire dans des milliers, des millions de vies. Cela va se produire jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais par contre, nous ne savons ni quand, ni comment le Seigneur interviendra dans la vie de ces personnes. Ce que nous savons en revanche, c'est que Dieu peut se servir de notre belle manière d'agir pour un jour toucher le cœur de quelqu'un que nous avons côtoyé de près. Parce que justement, là, ça s'adresse spécifiquement à des personnes qui nous connaissent suffisamment bien pour voir notre comportement. Le texte concerne ces personnes-là, les personnes que nous côtoyons, des personnes dans la vie desquelles le Seigneur peut intervenir. Quelqu'un dont nous sommes suffisamment proches pour que celle-ci ait remarqué notre belle manière d'agir, que notre manière d'agir était différente, que cette manière d'agir était belle et bonne, et que cette manière d'agir était le reflet de la personne qui est dans nos cœurs, dans nos vies, Jésus. Alors, Dieu pourra intervenir pour interpeller ces personnes. À partir du témoignage de votre vie, Dieu pourra intervenir afin que ces personnes réalisent ce que Dieu peut et ce que Dieu veut faire dans leur vie. La preuve, c'est ce que Dieu a fait dans votre vie. Et ce jour-là, elles rendront gloire à Dieu. Alors peut-être que ce jour-là, nous ne le verrons jamais arriver. Ou peut-être qu'il nous faudra attendre des dizaines d'années avant d'avoir la joie de connaître ce beau jour. Le jour où quelqu'un de proche, quelqu'un de notre famille, un ami, un collègue, rendra gloire à Dieu. Dieu ne nous a jamais promis que les choses se feraient automatiquement, ni qu'elles se feraient rapidement. C'est à Dieu qu'il appartient de choisir la manière et le jour où il interviendra. Mais en tout cas, ce que Dieu attend de nous, c'est que partout où nous sommes, et en particulier au milieu de ceux qui ne croient pas en Dieu, nous vivions en disciples de Jésus. Parce que grâce à notre témoignage de vie, Dieu pourra alors intervenir en touchant les cœurs et ainsi donner la vie à de nouveaux disciples de Jésus. Aussi, que notre manière de vivre permette à Dieu de toucher les cœurs et de se glorifier auprès de ceux qui nous entourent. Amen.